lune, trop blême, pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous.
Nous venons d'entendre un petit extrait de La Complainte de la Butte, chanté par Cora Vauquer, qui est aussi issue de la playlist collaborative du MOOC Impressionnisme. Maintenant, reprenons notre discussion. Vous avez commencé par nous présenter le MOOC dans ses grandes lignes, de façon à ce que nous sachions tous ce dont on parle, même si nous n'avons pas tous fréquenté le cours en question. On invite d'ailleurs les auditeurs qui ne l'auraient pas encore fait à écouter le premier volet de l'émission, c'est la session de rattrapage, c'est cadeau.
Alors je rappelle aux auditeurs que nous recevons Ariane, Annaléa et Guillaume, tous trois étudiants en architecture de l'information ici à l'ENS de Lyon. Ils sont venus nous parler du travail qu'ils ont mené sur le MOOC Impressionnisme. Alors vous nous disiez hors antenne que le point de départ de votre étude, c'est une grille d'analyse que vous avez co-conçue avec vos camarades.
Oui, tout à fait. Nous avons consacré la première partie du semestre à élaborer, d'après les consignes de notre prof, Eric Sanchez, pour ne pas le nommer, une grille d'analyse conçue pour décrypter tout dispositif d'apprentissage du type e-learning. Elle était aussi et surtout l'occasion de mobiliser les concepts et la théorie que nous avons abordés en début d'année. On se retrouve donc avec ces grilles théoriques qui est en réalité un outil conçu pour nous permettre d'analyser un dispositif.
Et alors on se demande sur cette grille si finalement vous avez pu la tester et si oui, est-ce qu'elle a fonctionné ?
Eh bien justement, le truc c'est que c'est une grille donc, qu'on a conçue en classe dans un univers aseptisé, quoi, dans le sens où on l'a conçue à partir de la théorie et pas du tout à partir de la pratique. Et du coup notre travail est double dans le sens où il consiste précisément à mettre en œuvre cette grille pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et du coup, par la même occasion, donc, analyser ce MOOC grâce à cette grille-là.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette grille est un outil générique. On l'avait conçu pour pouvoir analyser n'importe quel dispositif d'enseignement en ligne. Et là, véritablement, c'était la première fois qu'on l'a confronté face à un objet réel. C'était un peu un crash test, si vous voulez.
En fait, plus qu'une grille, c'est surtout un outil. En effet, ce terme est sans doute plus approprié. Elle prend la forme d'un questionnaire thématisé et il passe en revue des principaux aspects utiles à la description d'une situation d'apprentissage de type e-learning.
Alors sans forcément rentrer dans le détail de la grille, on ne va pas perdre notre auditoire avec tout ça, mais on aimerait bien en savoir plus. Est-ce que vous allez bien soulever ce rideau à un moment donné et nous inviter dans les coulisses ?
Ouais, non, c'est fini de faire du suspense là. Hein, on vous cède la parole, allez, racontez-nous tout sur les coulisses de ce MOOC.
Et alors en fait c'est à notre tour plutôt donc, de céder la parole puisque on avait l'intention là, de diffuser des extraits d'une interview donc, que Christine Vauffray a bien accepté de nous donner puisque c'est donc avec elle que nous avons passé le test de la grille. Elle a bien accepté de répondre à chacune des questions qui parfois pouvaient être un peu fastidieuses.
En fait, on s'est tous retrouvés un matin, on a discuté avec cette grille comme support. On était loin des micros ce jour-là, puis on a pris le temps de discuter entre nous à partir des réponses de Christine. Ensuite ?
Et ensuite, donc, dans un second temps, on lui a proposé donc, un nouvel entretien qui cette fois-ci est un peu plus fouillé, mais aussi un petit peu plus libre et avec surtout comme ambition de prendre un peu de recul pour avoir une vision, disons, un petit peu méta, et de façon à sortir précisément du carcan de la grille, et de manière à plutôt nourrir une réflexion plus générale, à partir de cet exemple précis, sur ce que ça veut dire, en somme, que concevoir un dispositif d'apprentissage dans le genre d'un MOOC.
Et donc c'est ce second entretien-là qu'on va écouter.
Tout à fait, Mathilde. Et puis après, on se retrouvera pour le commenter, apporter de nouveaux éléments de réflexion, peut-être le critiquer. Et voilà, je vous laisse avec Christine.
Bien, alors, donc on va reprendre un petit peu les questions de la grille. On avait été très intéressés par ce que vous nous aviez dit précisément sur les objectifs d'apprentissage.
Oui.
Et à ce sujet-là, est-ce que vous pourriez redire un peu quels sont, selon vous, en tant que conceptrice du MOOC d'un point de vue pédagogique, les objectifs précis d'apprentissage du MOOC et ou de chaque module.
D'accord. Alors, je vais répondre en deux temps. D'une part, dans un MOOC, par le fait même qu'il y a énormément de personnes, aucun prérequis pour rentrer, que la participation est absolument volontaire et soumise donc à l'appréciation du participant. on ne peut pas imposer d'objectifs pédagogiques vérifiables, mesurables aux participants. Parce que ce qui dit objectif, en principe, si on est rigoureux, dit moyen de mesurer le niveau d'atteinte ou au moins de s'être approché de cet objectif, donc niveau de départ, puisque l'objectif est fixé de manière raisonnable par rapport à ce qu'on suppose que les participants possèdent en démarrant le cours. Donc le MOOC change la donne à ce niveau-là. Donc on en est resté à des objectifs très simples, parce que des objectifs, il y en a malgré tout. C'est le sens dans ces deux significations à donner au scénario pédagogique. S'il n'y a pas d'objectif, on ne peut pas scénariser très clairement. Donc on en a fixé deux. Le premier, c'est à la fin du cours, les participants auront acquis des connaissances sur la période historique qui a vu naître le mouvement impressionniste et des connaissances sur la technique impressionniste et de chacun de ses peintres. Voilà, ça c'est l'objectif en termes de savoir. En termes de savoir-faire, on a aussi un objectif qui est, à la fin du cours, les participants auront une plus claire vision et pourront parler de manière plus efficace, je dirais, de leur propre relation aux œuvres d'art. Voilà, donc on a un objectif de savoir, un objectif qui touche à l'engagement des personnes, de la relation des personnes avec les œuvres d'art, les musées, les mouvements artistiques, etc. Voilà, donc deux objectifs.
Oui, voilà, parce qu'en fait, donc vous nous aviez dit de façon assez incarnée que des objectifs d'apprentissage, en fait, il n'y en avait pas, ce qui était donc une façon, je pense, de nous faire comprendre que c'est un MOOC qui était vraiment conçu comme une espèce de havre où chacun était libre d'entrer, de sortir, sans la contrainte précise d'un objectif d'apprentissage avec des critères d'appréciation et autres. Donc c'était sur la polysémie des objectifs d'apprentissage, en somme. Donc ça,
oui, il y a des objectifs qui sont fixés, je dirais, par les concepteurs, par les commanditaires. Maintenant, il est tout à fait admis et même encouragé que chacun des participants qui le souhaite crée ses propres objectifs, trouve le propre sens de sa démarche, là encore, en termes de signification et de direction. Hein, moi, je considère l'objectif non pas comme... l'objectif, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous donner les raisons d'allumer votre ordinateur, de revenir sur le cours et de continuer le cours. Ça se confond dans mon esprit avec l'intérêt. Les gens ne sont pas intéressés. Quand on dit ça des enfants, notamment à l'école, ça les intéresse pas. C'est parce qu'ils trouvent pas de sens, à la fois pas de direction et pas de signification. Chez les jeunes élèves, c'est très net. Les objectifs ne les concernent pas. C'est les objectifs qui ont été fixés par les enseignants, par les pédagogues. Ils ont une espèce d'injonction via les programmes scolaire de faire atteindre ces objectifs au plus grand nombre possible d'élèves. Nous, on n'a pas cette injonction-là. On a ce souhait, tout en étant parfaitement conscient que les participants peuvent ne pas adhérer à ces objectifs-là, avoir des objectifs propres, et que de toute façon, on n'aura pas de moyen, sinon celui de maintenir leur attention en éveil, de les contraindre à demeurer dans le cours et donc à s'approcher des objectifs qu'on aura fixés.
Mais c'est ça, moi, que je trouve très intéressant, en somme, c'est que même si vous scénarisez la manière de, justement, restaurer et entretenir l'intérêt, il n'empêche que vous fondez vos efforts, en fait, sur la démarche personnelle de l'apprenant qui consiste à émettre un élan qui est celui de se mettre en ligne. Mais du coup, alors deux choses. La première chose, c'est que est-ce que selon vous, ces intentions, objectifs, positionnements même en fait, hein, est-ce qu'ils sont explicitement signifiés aux apprenants? Oui. Et pourquoi?
Alors, ils sont pas signifiés comme ils peuvent l'être dans une formation classique, qu'elle soit académique ou professionnelle, où effectivement, on a, je dirais presque l'obligation, même si elle n'est pas nécessairement légale, d'expliciter, de présenter les objectifs d'apprentissage aux participants. Ça sert un peu de contrat, je dirais, de contrat pédagogique. On présente les objectifs, après on présente les moyens d'y parvenir. Donc les contenus et les modalités qui seront proposées aux apprenants et enfin l'évaluation. Là, on n'est pas dans quelque chose qui est aussi marqué formation. Les gens viennent parce qu'ils viennent chercher du contenu, ils ont le sentiment d'être dans un cours, mais ils n'attendent pas de ce cours un résultat tangible et ils n'ont pas de projet de formation tel qu'on peut l'entendre généralement, c'est-à-dire grâce à cette formation, je vais faire ceci ou cela. Donc, on n'a pas voulu pousser cette dimension-là parce que, à notre avis, c'est un peu austère et puis ça conditionne les comportements des participants. Alors que là, on est vraiment dans une notion d'apprentissage plaisir. En plus, c'est un MOOC culturel, ce n'est pas un MOOC métier, par exemple. Ce n'est pas non plus un MOOC acquisition de savoir et de savoir-faire pour passer un diplôme ou pour se professionnaliser ou se perfectionner dans ceci ou cela. Donc, on est bien sur le champ des loisirs culturels, sans aucun doute, mais néanmoins des loisirs. Et donc, on s'est efforcé d'atténuer la dimension formative, académique ou professionnelle dans ce MOOC. La plateforme Solerny, d'ailleurs, y contribue pour beaucoup.
Et ce qui est très intéressant, là, je trouve, c'est que vous êtes en train, en fait, de commencer à dire que la forme que l'on donne à la plateforme, elle dépend un peu de la métaphore d'apprentissage qu'on cherche à mettre en œuvre.
C'est
dans
très
le
clair.
Sens où... je trouve que la forme de la plateforme... Elle incarne bien en soi ce discours et ces intentions-là.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est ce qui est. En tout cas, c'est ce qu'on on s'est appuyé dessus pour faire ce MOOC.
Ça nous amène en fait à une question un peu plus globale. Et cet objet-là que vous avez créé, est-ce que c'est vraiment un MOOC? Est-ce que c'est un cours? Enfin, vous avez dit là que. On était dans le champ non pas de l'apprentissage mais dans le champ du temps libre, on était dans la culture et pas dans donc l'académie, mais il n'empêche que c'est quand même une manière de reformuler une manière de cours en histoire de l'art. Vous nous avez bien dit qu'on n'était pas dans un MOOC métier ni dans un MOOC acquisition, mais au final notre angle d'approche nous dans notre cours c'est précisément d'analyser une situation d'apprentissage et on a choisi ce MOOC-là donc qu'on a considéré comme un MOOC. Mais
oui.
Au plus on avance, au plus on a l'impression justement que ce qui nous semblait être les critères définitoires d'un MOOC sont remis en cause. Alors c'était peut-être votre intention, mais du coup on se pose la question, non pas qu'on cherche absolument à mettre une étiquette sur le front de cet objet-là, mais qu'est-ce que vous avez créé là comme...
Alors, moi je peux vous le dire les yeux dans les yeux et sans aucune hésitation, j'ai créé un cours à 300%. Et ça, je le défendrai jusqu'à mon dernier souffle.
Rien que ça.
Non, mais j'ai publié, j'ai fait une intervention à l'Université de Genève il y a quelques jours et mon diaporama est sur SlideShare et s'appelle justement « Un MOOC est un cours ». Donc on est vraiment au cœur de la problématique qui vous intéresse et qui m'intéresse moi au premier chef. Je dirais que ce MOOC-là possède tous les attributs d'un cours, ce qui n'est absolument pas le cas, et là je pèse mes mots, des MOOC académiques qui sont donnés comme des cours et qui à mon avis ne sont que des séquences d'informations. C'est de la web TV. C'est de la télévision. Les gens viennent pour regarder la télé et passer quelques quiz en plus parce que comme ils aiment bien le faire quand ils ouvrent leur hebdomadaire préféré. Mais c'est du média. C'est du média qui se fait passer pour un cours. Alors que notre MOOC à nous, qui a toutes les caractéristiques, enfin un certain nombre de caractéristiques des médias, en fait est un vrai cours. Pourquoi ? Dans ce MOOC, on va trouver des contenus, les contenus de cours, comme on a l'habitude de les appeler, qui sont médiatisés sous une forme agréable, mais tous ces contenus sont absolument validés, légitimes, exacts, ont été créés par une historienne de l'art et ensuite ont subi un traitement média, mais sont absolument justes. On va trouver des aides à l'apprentissage, des documents textes qui permettent de revenir sur les contenus de cours à tête reposée. On sait très bien que diffuser une seule fois un message ne suffit pas à le mémoriser, encore moins à le comprendre. On a d'autres médias qui transmettent le même message mais sous une forme différente. Donc tout ça, ce sont des aides à la compréhension et à la mémorisation. On a des activités d'apprentissage. On apprend en faisant et non pas en regardant, en restant passif. Le but là était vraiment de mettre les participants en activité, les rendre actifs, acteurs de leur apprentissage. Et les activités ont été pensées comme des activités d'apprentissage et non pas uniquement comme des occasions de socialisation ou d'expression. Enfin, c'est pas cosmétique, je dirais. Ce sont de véritables activités d'apprentissage qui permettent aux personnes de vérifier elles-mêmes dans une démarche d'auto-évaluation qu'elles ont compris et qu'elles sont capables d'exploiter les éléments du cours et qui me permettent à moi, responsable pédagogique, de vérifier que les contenus ont produit leurs effets et que les gens en savent plus à l'arrivée qu'au départ. Je connaissais pas leur niveau de départ, mais très trivialement, enseigner, c'est ça. C'est faire que les gens qui sont en face en sachent plus à la fin qu'au début. Et donc, moi, je savais pas quel était leur niveau au début, MOOC oblige, mais en tout cas, je sais très bien où je souhaite les conduire avec mes activités, sur quoi je souhaite les voir s'exprimer, et la diversité des points de vue et des modes d'expression qui sont à leur disposition. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant. On a un niveau qualitativement parlant de contribution sur le forum qui est tout à fait intéressant. Et enfin, il y a une partie évaluation qui est légère, je dirais. Ce sont les quiz de fin de séquence, mais néanmoins bien supérieurs à la plupart des quiz que j'ai vus sur les MOOC dits académiques, qui se contentent de mettre 3 questions et souvent très anecdotiques. Juste histoire de dire j'ai mis un quiz, mais on travaille pas sur les concepts fondamentaux ni sur les faits. Nous, on a fait des quiz en 10 questions qui sont pas difficiles, parce que si vous avez suivi le cours, vous avez mémorisé, mais enfin qui touchent sur l'essentiel des contenus, pas sur l'anecdote. Vous verrez pas dans nos quiz Manet était barbu, vrai ou faux. Non, ça on s'en fiche complètement, quoi. Et ça, c'est le genre de questions que j'ai vu dans des dizaines de quiz académiques, et je me dis de qui se moque-t-on, quoi. Enfin, c'est absolument pas une question porteuse de mémorisation et d'apprentissage. Ça, justement, il n'y a pas de sens. Donc tous ces éléments-là, donc des contenus, des aides à la mémorisation, à la compréhension, des activités d'apprentissage et de l'évaluation de la mémorisation en fin de séquence d'une part et au travers des deux synthèses défi 1 et défi 2 à deux moments du cours, me font affirmer avec force que j'ai créé un cours et non pas un produit de distraction et non pas des choses comme ça. Et que dedans, il y a les éléments fondamentaux qui doivent apparaître dans tout bon cours. D'accord. Et comme on parle avec des enseignants, je leur dis, je commence toujours mes interventions de la même façon, je dis pour vous, qu'est-ce qu'un bon cours? Et ils vont dire, c'est une séquence qui donne envie aux gens d'aller plus loin, d'apprendre par eux-mêmes après le cours. C'est une séquence qui leur facilite la compréhension de ceci ou cela. C'est une séquence dans laquelle on a des contenus fiables, vérifiés, objectivés, etc. Et je dis, ben voilà, maintenant, l'enjeu, le défi, c'est de mettre ces éléments-là que vous estimez en tant que professionnel, en tant que praticien, être ceux du bon cours dans un MOOC. Lâchez la représentation que vous vous faites du MOOC, c'est-à-dire des vidéos et des quiz, et mettez, inventez ce qui va être dit, enfin ce qui va faire que votre MOOC va être un cours, qui soit distribué à 20 personnes comme dans une séquence de e-learning classique, ou à 2000 ou 10 000 comme dans un MOOC. Et vous verrez que les gens font la différence. Ouais. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que pour le moment, la grande majorité des participants à un MOOC ne viennent pas participer à un cours. Mmh. C'est paradoxal, mais c'est vrai, ils viennent regarder la télé. Ils viennent donc, d'où l'importance de soigner vraiment très très profondément le contenu même, hein, la médiatisation, la vidéo. Faisons des bons contenus, les gens ont l'habitude des documentaires, des choses, voilà. Faisons des bons contenus, ne nous contentons pas d'une vague lumière d'un type qui bafouille et puis qui lit sa feuille, ça vous allez perdre tout le monde. Le niveau média sur le web a considérablement monté, mais pour la partie, pour la proportion de ceux qui viennent réellement avec une intention d'apprentissage, qui se sont eux-mêmes créés un projet d'apprentissage, travaillons le reste et donnons-leur la preuve que nous sommes des pédagogues. Nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des médiatiseurs, nous sommes des pédagogues et nous savons faire des bons cours.
Je reviens donc un temps sur cette histoire de cours-là, ce qui fait aussi peut-être la spécificité en tout cas d'un cours en présentiel, ce sont, je crois, les interactions possibles entre le pédagogue et son audience. Là, la question des feedbacks... l'apprenant, il sait qu'il est toujours dans la plaque grâce au résultat du quiz, mais vous avez besoin de récolter des traces pour être sûr que vos apprenants sont là où vous souhaitez qu'ils soient, ou en gros, mais la réciproque, elle est vraie de quelle manière ?
Alors, elle est peu vraie au premier sens du terme, c'est-à-dire que effectivement, et ça c'est une limite très très évidente, enfin bien connue de la plateforme que nous avons utilisée, elle a d'énormes faiblesses au niveau des interactions. On n'a quasiment pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a quasiment pas de moyen de rentrer en contact avec les personnes, que ce soit en groupe ou que ce soit individuellement. Et ça c'est un manque énorme, parce qu'effectivement, on voit sur d'autres plateformes, je pense notamment à la plateforme britannique Future Learn, des conversations s'engager entre certains participants ou des groupes de participants et l'enseignant ou au moins des animateurs qui sont des animateurs qualifiés avec une spécialité sur le contenu et qui permettent voilà d'améliorer l'engagement, le sentiment d'appartenir à une communauté, le sentiment d'appartenir, enfin d'être encore une fois dans un cours. Ça c'est vrai, c'est un manque. Ceci dit, je dirais que la comparaison avec le présentiel n'est pas toujours pertinente. Moi j'ai vu de bien meilleurs échanges dans de l'e-learning en groupe fermé sur un LMS qui facilite ces échanges entre étudiants et enseignants, que dans certains cours en présence ou quand vous êtes dans un cours magistral en amphi, il y a absolument zéro interactivité, les gens se lèvent, s'en vont, enfin bon, on est vraiment dans le degré zéro de l'interaction. Et vous avez des profs qui lisent leurs notes de cours, voire leur ouvrage, et puis ils font ça pendant 1h30 et à la fin ils s'en vont. Que les étudiants aient écouté et fait autre chose et discuté de leur dernier week-end ou quoi, c'est pas la question. C'est pas la question. Donc l'environnement d'apprentissage est absolument crucial. Et il me semble que l'idéal du cours en présence rempli d'interactions, etc., tel qu'on l'oppose très volontiers à l'e-learning, c'est plus le modèle du séminaire de master que celui du cours en amphi de première année. Et que voilà, on est en séminaire, on est entre gens qualifiés qui ont un centre d'intérêt commun, qui se portent une estime mutuelle, ce qui n'est pas le cas dans le cours en amphi de première année, et qui vont discuter entre gens de bonne compagnie. Là, oui, on peut dire, là, la présence a vraiment une valeur ajoutée au niveau de l'interaction. Et c'est cette ambiance-là qu'on retrouve dans certains cours en e-learning, où l'enseignant accepte de jouer le jeu, parce que beaucoup ne le souhaitent pas. Hein. Ils ont peur d'être débordés, d'être interpellés n'importe quand. Donc, on a mis des tuteurs. Mais quand l'enseignant accepte de faire ça, on arrive à une qualité d'échange vraiment de haut niveau, parce que les participants ont déjà suivi le cours, donc ils ont acquis le minimum de connaissances et ensuite ils posent leurs questions. Alors que dans un cours en présence, vous avez la personne, elle assimile et elle pose les questions sur ce qu'elle n'a pas compris. Alors qu'en e-learning, on est sur de l'asynchrone, je m'imprègne d'abord du cours et je vais demander des choses supplémentaires. Et le niveau, j'ai fait beaucoup de e-learning classique, le niveau d'interaction, la qualité des interactions est infiniment supérieure à ce que j'ai pu avoir sur le même sujet avec un public similaire dans un cours en présence. Ça, il n'y a aucun doute.
D'accord. Alors, vous avez employé un terme qui était le terme, donc dans un autre cadre, vous parlez donc de mettre un tuteur. Dans le cadre du MOOC, il y a des animateurs. Les animateurs qui sont pour les apprenants un peu justement les représentants de l'instance, les représentants disons du système quoi.
Oui.
Ces animateurs-là, pourquoi est-ce que selon vous ce ne sont pas des tuteurs et quel rôle au pluriel leur avez-vous assigné ?
Alors, ce ne sont pas des tuteurs. Ce ne sont pas des tuteurs parce qu'ils n'ont pas une fonction d'accompagnement individuel suivi. Certes, ils peuvent, et ils le font, donner des informations, aider un participant ponctuellement. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à ouvrir la séquence machin, s'il vous plaît, aidez-moi. Bien sûr, l'animateur va répondre, ça c'est clair. Mais il n'a pas pour mission de suivre le parcours de chaque apprenant individuellement. Parce que les deux termes de ma phrase là sont pris en défaut dans le MOOC. D'une part, suivre individuellement les personnes quand vous avez 13 200 inscrits, c'est juste impossible, même si vous avez une armée de tuteurs. Et d'autre part, ce n'est pas une mission. Chacun fait le parcours qui lui convient. Il n'y a pas d'obligation d'aller au bout, par exemple, ou d'avoir réussi tous les quiz. Donc, il n'y a pas de mission de vérification, de contrôle du parcours attribué au tuteur. Enfin, à l'animateur, pardon. Alors que le tuteur en e-learning a cette mission-là. C'est lui qui doit alerter l'administration, l'enseignant, mais d'abord l'apprenant lui-même, s'il constate que tel ou tel a pris du retard, n'a pas réalisé telle activité, n'a pas consommé tel contenu. Dans ce cas-là, il va entrer en contact avec lui, généralement par mail, parfois par téléphone, en lui disant « Monsieur machin, Madame truc, il me semble là que vous avez pris un peu de retard, que se passe-t-il ? Nanana, nanana. » Et puis, il va entrer, voilà, il va essayer de raccrocher la personne. Parce que dans une, je le disais en commençant, le contrat pédagogique entre un étudiant et son enseignant, qu'il soit en présence ou à distance, c'est l'enseignant vous en amène le plus grand nombre jusqu'au bout. De préférence tous. Même voilà. Si c'est pas le cas. Mais voilà. Alors que dans un MOOC, on ne peut absolument pas imposer ça. Hein, on est sur le régime de, le niveau de contrainte dans un MOOC est extrêmement bas.
Ah oui, c'est ça.
Tout simplement, si les gens ne veulent pas ou non oublient, même si c'est pas une volonté de leur part, si les gens ne viennent pas, vous n'allez pas les chercher par la peau du dos pour les ramener dans le coup. Mais alors que quand ils sont inscrits, oui.
Oui. Ok. Vous caractériseriez ce MOOC de quelle manière du point de vue des grandes théories de l'apprentissage, je dis grandes au sens large, hein, que sont behaviorisme, constructivisme, socio-constructivisme, connectivisme. Alors, vous aviez déjà dit un peu que ce MOOC, pour vous, était un T-MOOC, dans le sens où c'était un apprentissage par la tâche. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite glose, justement, de ça, là, raccrocher le MOOC au niveau des grandes théories de l'apprentissage, du point de vue, en tous les cas, de vos intentions de conceptrice?
Oui. Je dirais que il y a l'intention puis il y a la réalité.
Oui, ben voilà.
L'intention la plus large, c'était et c'est l'intention des concepteurs de Solerny, mais intention qui n'est pas transformée clairement jusqu'à maintenant, c'est de privilégier ce qu'on appelle le social learning et donc éventuellement soit le socio-constructivisme, soit le connectivisme, si tant est qu'on puisse définir ce que c'est que le connectivisme. En tout cas, l'apprentissage en réseau, avec une zone de proximale de développement, pour parler comme Vygotsky, qui serait étendue à l'ensemble du web, ou au moins à l'ensemble des participants d'un MOOC. C'est-à-dire que, concrètement, on ne sait pas d'où va venir la bonne surprise, on ne sait pas quel va être le tiers facilitateur, le tiers sachant. On est dans un environnement d'apprentissage facilitant, favorable, où les barrières justement d'accès sont très très basses et où l'interaction entre les gens doit être facilitée au maximum de manière à ce qu'il puisse y avoir des connexions qui s'opèrent entre ces participants sans qu'on puisse présumer à l'avance de qui va entrer en connexion avec qui. Ce n'est pas encore matérialisé dans les faits parce que le système d'interaction est très très défaillant sur Solerni, et même sur les plateformes qui ont un meilleur système d'interaction, ça reste très élémentaire. À mon avis, c'est là que se situe la plus grande marge de progression dans les MOOC aujourd'hui. Et il faudra impérativement passer par le web sémantique pour tenir cette promesse de connectivisme, si tant est que ça existe encore une fois. Mais ce n'est pas humainement à la portée d'un participant ou d'un pédagogue, enfin d'un concepteur, de mouliner les données de manière à optimiser les chances de rencontre ou les chances de rencontre entre les bonnes personnes, pour aller vite. Il faut un traitement automatique de ces données, mais un traitement intelligent qui, et actuellement, ça ne suffit pas. Enfin, ce qu'on a, ça ne suffit pas. Le fait que les gens viennent de la même région, qu'ils aient le même âge, ça n'a aucune espèce d'importance. Et jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'une plateforme est capable de nous retourner. Il faut vraiment travailler sur la signification. Et je suis en contact avec des spécialistes du web sémantique parce que je souhaite vraiment, mais très très fort, ajouter cette valeur-là dans des MOOC à assez brève échéance, quoi. Hein, c'est-à-dire dresser des cartographies, des compétences, pouvoir faire de la recommandation, enfin des choses comme ça.
D'accord.
Donc, de quelle théorie ça relève ? Ben, c'est ça, c'est soit socio-constructivisme, soit connectivisme. Après, puisqu'on n'a pas ça aujourd'hui, je dirais qu'on n'est absolument pas dans le behaviorisme, ça c'est sûr, hein, puisque c'est vraiment la souveraineté, l'autonomie de la personne qui est mise en avant, et non pas sa conformité à... constructivisme, oui. Je dirais que pour le moment, on est plus constructiviste que socio-constructiviste. Même s'il y a un effet groupe qui joue certainement, mais on a du mal à le mesurer. En revanche, la personne est responsable de ses apprentissages et elle est fortement invitée à pratiquer, à réaliser des tâches, des activités pour apprendre. Donc oui, si on doit rapporter ça à des théories de l'apprentissage, je dirais que c'est constructivisme.
This morning.